Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux s'y le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu.
Revenons d'abord, si vous voulez, à l'épître de saint Jacques, parce que c'est assez facile à comprendre, en tout cas, même si c'est difficile à entendre, c'est facile à comprendre. Et les circonstances qui étaient celles décrites par Jacques sont un peu les mêmes encore aujourd'hui. Imaginez que deux personnes arrivent en même temps, un homme aux vêtements rutilants portant une bague d'or, et un pauvre aux vêtements sales, vous dites à celui qui est bien habillé, viens ici devant. Et puis celui qui est sale, qui sent mauvais, qui est peut-être un ivrogne, reste un peu derrière, laisse-nous tranquille. Oui, c'est facile à comprendre, même si c'est difficile à entendre, parce que ça nous renvoie à des attitudes que nous partageons tous dans notre cœur. Nous sommes malades, nous sommes pécheurs, et nous avons tellement de peine à ne pas faire de cas des personnes. Que celui qui, d'entre nous, n'a jamais fait cas des personnes, lève la main. Nous sommes tous un peu coupables, parce que nous sommes tous un peu au cœur divisé, tentés d'accueillir plus facilement celui qui est plus proche de nous socialement, et de laisser un peu à l'écart celui qui est plus éloigné, surtout, encore une fois, s'il sent mauvais, s'il nous répugne. Le danger, ce serait de regarder ça simplement d'un point de vue moral. C'est bien, c'est pas bien, attention, attention, il faut faire des efforts, mes enfants, il faut convertir notre assemblée et faire bien attention aux pauvres. Oui, bien sûr, mais c'est un peu court comme raisonnement et surtout comme attitude. Le Seigneur nous invite plutôt à un changement de regard, à une conversion profonde de notre regard. Nous sommes tous des images de Dieu. Nous sommes tous créés, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons blancs ou noirs, que nous soyons propres ou sales, nous sommes tous à l'image de Dieu. Et nous avons été tous destinés à devenir riches dans la foi, comme dit saint Jacques encore, pour être héritiers du royaume, ce royaume qui a été promis à ceux qui l'auront aimé. Nous sommes tous frères de Jésus-Christ qui s'est fait notre frère aîné, et même nous sommes égaux du Fils. Jésus lui-même le dit, vous êtes mes amis désormais, je ne vous appelle plus serviteurs, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître, et donc l'ami, c'est celui qui, avec son ami, partage quelque chose à égalité. Nous sommes tous donc égaux du Christ, puisque nous sommes destinés à siéger avec lui sur son trône, le trône qu'il a reçu de son Père. qu'ils soient tous un en moi, dit Jésus, et je veux, c'est Jésus dans sa prière juste avant sa passion, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Nous sommes tous égaux du Fils, qui lui-même est égal du Père. Même si Jésus le dit, le Père est plus grand que moi, le Père et moi, nous sommes un. Et donc le Père et le Fils sont égaux, tous les deux personnes de la Trinité Sainte. C'est quelque chose qui nous choque un peu quand même. Même si nous savons que Dieu nous aime, nous le croyons. Imaginez que nous sommes égaux de Dieu. C'est quelque chose qui ne nous vient pas spontanément à l'esprit. Il faut vraiment que Dieu l'ait révélé, ça. Lui qui est au-delà de tout, lui qui est source de toute transcendance, lui qui est source de tout être, que nous, tirés de la poussière du sol, nous puissions être élevés dans la gloire avec lui, en lui. C'est quelque chose que nous n'avons pas beaucoup de... Nous avons beaucoup de peine, au contraire, à penser, parce que c'est quelque chose qui est très éloigné de notre imagination. Cette égalité, et c'est là le point important, cette égalité, nous la pensons trop facilement en termes d'égalité de revendication. Alors que Dieu parle d'une égalité d'humilité. Quand nos premiers parents ont péché, quand nous, nous péchons par orgueil, nous revendiquons une place. Sans cesse, nous reproduisons ce premier péché de nos parents. Nous avons voulu, tentés par le démon, nous avons voulu nous faire les égaux de Dieu. Parce que nous avons considéré Dieu comme un rival, nous avons voulu prendre la place de Dieu, capable comme lui de discerner le bien et le mal. Un peu comme une petite fille à la maison revendique sa part de gâteau, surtout égale à celle de son frère. En fait, c'est un peu une façon de masquer une jalousie. J'ai surtout très peur que mon frère ait une part plus grosse que la mienne, donc j'exige que la mienne soit égale à la sienne. Une égalité de revendication, c'est un peu à la manière aujourd'hui du féminisme ou de toutes ces revendications sociales qui sont des idéologies d'égalitarisme. Des égalités par revendication. J'exige d'avoir la même place que lui. L'égalité dont parle Jésus, l'égalité dont il s'agit dans l'Évangile, c'est une égalité par humilité. Jésus, lui, s'efface. Jésus s'est toujours fait plus pauvre que le plus pauvre. La seule chose qui est au-dessus de Jésus, c'est la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'est qu'il soit donné aux pauvres et aux petits. Et Jésus s'efface sans arrêt par humilité. Lui qui était de rang égal à Dieu, n'a pas revendiqué ce rang qui l'égalait à Dieu. Au contraire, il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur. Il s'est fait esclave pour finir sur la croix, en mourant par amour. C'est une égalité par amour. C'est le plus grand qui se fait l'égal du plus petit. Et non pas le plus petit lui-même qui, comme la grenouille qui voudrait se faire comme le bœuf, se grandit pour se faire comme le grand. C'est une égalité d'effacement. Et Jésus nous invite, et Saint Jacques avec lui et à sa suite, nous invite à regarder le plus pauvre comme Jésus le regarde. C'est-à-dire, on tremble en le disant, mais il faut le dire, c'est-à-dire comme supérieur à nous. Saint Paul y insiste aussi souvent, considérez les autres comme supérieurs à vous. Spontanément, nous nous disons, oui, il y a des gens qui sont plus intelligents que moi. Oui, il y a des gens qui sont plus sains que moi. Mais vers le bas, il y a encore de la marge. Donc je me situe plutôt dans la moyenne haute. Je me compare aux autres et en m'estimant finalement pas trop mauvais dans l'échelle de valeur. Jésus nous invite à une conversion profonde du regard, cette conversion qui nous fait plus petits que les autres et qui fait que le pauvre sera mis au cœur, au centre. Parce que, comme dit sans cesse notre pape François, le pauvre est le premier évangélisateur. C'est lui qui est la norme de l'Évangile. Le pauvre dans toutes les dimensions de la pauvreté. Pas seulement la pauvreté sociale, la pauvreté spirituelle, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté physique. bien sûr aussi la pauvreté sociale. Au fond, en revenant à cette histoire de péché premier, de ce péché originel, Satan nous a fait croire que Dieu était tellement haut qu'il nous écrasait de sa hauteur. Et parce que nous avons imaginé quelque chose sur Dieu, nous avons voulu nous faire égaux de Dieu, et nous sommes tombés. Nous avons quitté son amour, nous avons quitté sa bonté, nous avons quitté sa miséricorde. Et ce faisant, nous avons construit, et c'est ce que nous sommes tentés de faire sans cesse, nous avons construit des idoles, nous avons construit des dieux à notre image au lieu de recevoir Dieu comme notre source. Au lieu d'être créés à l'image de Dieu, nous avons imaginé des dieux créés à notre image. Et c'est comme ça que l'homme se construit des idoles dont l'Écriture dit sans cesse qu'elles ont des oreilles et n'entendent pas, une bouche et ne parlent pas. C'est la caractéristique des idoles. Elles n'entendent rien, elles sont sourdes aux prières des pauvres. Et elles sont incapables de parler, elles sont incapables de dire des paroles d'amour. C'est tout l'inverse de Dieu, tout le contraire. Et si nous réalisons que le miracle dont l'Évangile nous parle aujourd'hui, dans l'Évangile de saint Marc, si nous réalisons que ce miracle est fait par Dieu, par Jésus, en plein territoire de la Décapole, quelque chose qui est intéressant parce que nous sommes en terre païenne et donc dans la terre où les païens adorent des idoles, justement des idoles de bois, qui n'entendent pas et qui ne parlent pas. Et ce miracle, finalement, qui concerne une personne particulière, en un temps particulier, va nous concerner tous, dans tous les temps de l'humanité. Parce que tous, nous avons besoin d'être guéris pour entendre de nouveau, non pas seulement les splendeurs et les richesses du monde, non pas seulement nos imaginations prolifiques. Nous avons tous besoin d'être guéris pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la parole de Dieu qui parle à travers les pauvres, et pour dire les merveilles de Dieu, les merveilles de son amour, les merveilles de sa miséricorde. Quand Jésus va guérir ce sourd muet, il le prend à part. Il le prend à part parce qu'il veut parler avec lui. Il veut un contact personnel. C'est la foule qui a conduit ce sourd muet à Jésus. Jésus le prend à part. La conversion est toujours une affaire de seul à seul. Les idoles agissent toujours avec les foules, des foules anonymes. Dieu parle toujours à des personnes singulières. Dieu s'adresse à moi en particulier. Il nous prend à part et avant de guérir ce sourd muet, Jésus soupire. Le mot plus exact serait « il pousse un gémissement ». Il pousse le gémissement parce que lui souffre. Il souffre du péché des hommes. Il porte ce péché sur lui. Il souffre sa passion et la guérison qu'il opère est déjà le fruit de sa passion et de sa souffrance. Il prend sur lui le péché des hommes comme il prenait sur lui la lèpre de ce lépreux qui pourra, lui, retourner en ville pendant que Jésus, lui, restera à l'extérieur. Il mourra à l'extérieur de Jérusalem. Il soupire, il pousse le gémissement de sa souffrance et il lève les yeux vers le Père. Il ne fait rien sans le Père. Il ne fait rien sans référence à son Père, lui qui a tout pouvoir. Lui par qui tout a été créé, sans qui rien de ce qui a été créé n'a été créé. Lui qui pourrait tout faire de sa propre autorité, ne fait rien autrement que par la volonté du Père. Il lève les yeux vers le ciel parce qu'il n'opère dans sa puissance divine que dans le Père, par l'Esprit Saint. Exactement l'inverse de ce que nous faisons nous quand nous sommes dans le péché. Nous agissons seuls. Le péché est toujours dans les ténèbres de la solitude, de l'isolement. Même quand nous sommes à plusieurs dans le péché, nous sommes enfermés dans notre péché parce que nous n'entendons plus rien et nous sommes incapables de parler. Supplions le Seigneur aujourd'hui de nous guérir en profondeur pour que nous puissions de nouveau entendre Jésus, entendre la parole de Dieu, c'est recevoir Jésus puisqu'il est lui-même la parole incarnée, le Verbe incarné. Recevoir Jésus, c'est recevoir les pauvres, tout se tient décidément. Accueillir le pauvre comme Jésus lui-même. Est-ce que, en sortant de l'église, quand nous poserons les yeux sur celui qui sera assis dans la rue, sur le trottoir, ivrogne peut-être un dimanche matin, sale, qui sent mauvais, est-ce que nous l'accueillerons intérieurement comme nous pourrions accueillir Jésus lui-même ? Sentons bien qu'il y a du chemin à faire avant d'entendre réellement la parole de Dieu. Demandons ce matin d'être guéris pour pouvoir proclamer les merveilles de Dieu au lieu de proclamer avec le monde les folies de notre imagination tordue, les folies de ce monde riche de lui-même. Que nous puissions proclamer l'amour qui regarde, qui observe, qui est attentif. Et bien sûr, nous le demandons par la prière de la Vierge Marie, elle qui est toute écoute de la parole. Elle est tellement tendue vers la parole de Dieu que le Verbe se fait chair en elle. Le Verbe prend vie en elle parce qu'elle est tout entière disponible à cette parole. Alors elle peut proclamer, et elle le fait, en particulier le jour de la Visitation, elle peut proclamer son Magnificat, le cantique d'action de grâce, qui dit les merveilles de Dieu dans toutes les générations, parce qu'elle a dit oui au Seigneur. Première parole, le oui, le fiat, qu'il me soit fait comme tu as dit. Ce matin, en rentrant un peu, puisque c'est le début d'une année scolaire nouvelle, écoutons cette parole de Dieu, soyons attentifs à l'accueillir de tout notre être pour, avec la Vierge Marie et par elle, dire oui, oui à la volonté de Dieu comme elle se présente. Seigneur, qu'il me soit fait comme tu as dit. Et nous pourrons proclamer avec elle et par elle les merveilles de son amour dans notre monde. Amen.